Pax et Bonum, amis auditeurs, nous retrouvons notre émission avec François d'Assise. Nous continuons avec Julien Green, historien, sur ce très bel ouvrage intitulé « Frère François ». Dans ces épisodes qui nous sont contés grâce à Saint-Léger Productions. Et nous arrivons maintenant à une page de l'histoire de François qui est très belle, la rencontre avec Claire d'Assise. Nous écouterons donc pendant quelques rencontres cet alter ego, on peut dire, de François dans la femme, qui est Claire d'Assise, avec aussi tout ce qu'elle développera elle-même dans sa spiritualité, dans son amour pour le Christ. Écoutons.
Histoire d'amour. Alors que François prêchait dans la cathédrale de San Rufino, il ne se doutait pas qu'une toute jeune fille de 17 ans, accompagnée de sa mère et de sa sœur, écoutait passionnément le grand séducteur d'âme qui parlait de l'amour de Dieu. Il n'était pas ce qu'on appelle beau, et se trouvait de 12 ans plus âgé qu'elle, mais cela n'avait pas d'importance. Car aussi belle qu'une fille peut l'être, elle recevait chacune de ses paroles avec une indescriptible émotion, parce qu'il l'arrachait à elle-même. Avec lui, elle tombait amoureuse de l'amour. Et comment séparer de l'amour l'amour du messager de l'amour? Se confondait-il? Nous n'avons reçu qu'un seul cœur pour aimer Dieu et ses créatures. On lui eût dit qu'elle était amoureuse de François, elle eût été horrifiée et n'eût pas compris. Mais rentrée chez elle, la voix véhémente et douce la suivait, prêchant la pénitence, le mépris des richesses, la mortification de la chair. Pas plus que lui, elle ne pouvait se défendre d'aimer. C'était leur nature, à l'un comme à l'autre. Mais pour la première fois, elle venait de l'entendre exalter l'amour, et il lui révélait que leur passion était la même, le désir infini de s'unir à Dieu. Pendant toute son enfance, elle avait entendu parler de lui. Avant, comme après la guerre et l'exil de sa famille à Pérouse. Et nul doute qu'elle ne l'ait au moins aperçu au cours de ses promenades, la ville entière étant au courant des folies de ce garçon, roi de la jeunesse et du tapage. Que pensait-on du personnage chez elle, dans la très noble famille des Offreduccio? Peut-être s'en amusait-on à mots couverts, sans approuver cette façon qu'il avait de jeter l'argent dans les fêtes, l'argent de son drapier de père. Malgré tout, on ne se montrait pas trop sévère pour le mauvais sujet qui chantait à toute heure du jour et de la nuit. De la nuit, surtout. Sa gaieté portait presque tout le monde à l'indulgence. La fillette écoutait. Elle avait 12 ans quand éclata la nouvelle incroyable. Le roi de la jeunesse s'était converti, se réfugiant tout nu sous la cape de l'évêque après avoir renié son père. Sans doute Claire n'avait-elle pas assisté à la scène. Elle ne se mêlait pas à la foule, mais ce qu'on raconta de l'événement dut la frapper. Le jeune homme quittait d'un seul coup le monde, toutes ses vanités et toutes ses richesses pour suivre le Christ. Claire aussi aimait le Christ, mais quitter le monde... On parlait déjà du mariage qu'elle ferait un jour. Elle était très pieuse, la jeune Claire. C'est même bien peu dire. Elle était déjà sainte. Les témoignages surabondent. Dès l'enfance, elle menait une vie quasi angélique. Un de ses traits les plus caractéristiques était son désir de n'être vue de personne. Sous les vêtements d'une extrême élégance dont on l'habillait, elle portait sous sa peau un autre vêtement de laine rude et grossière, en tout point semblable à un cilice. Elle trouvait le moyen de mettre en réserve, pour les faire passer aux pauvres, les mets délicieux qu'on servait à la table de ses parents. Il fallait observer de très près pour découvrir qu'elle donnait des heures à la prière et qu'à sa façon, elle vivait déjà comme une religieuse. François n'eût pu rêver une auditrice plus fervente ni plus complètement abandonnée à Dieu. La connaissait-il en 1210, une jeune fille si secrète, si résolue à ne jamais se montrer? Cela paraît douteux. Cependant, il avait dû entendre parler d'elle par son cousin Germain, ce même Ruffin qu'il avait envoyé prêcher à demi-nu. L'inévitable se produisit en peu de temps. Nous savons parfaitement ce que pensait François des femmes après sa conversion. Dire qu'il évitait de les voir est faible. Il interdisait à ses frères de leur adresser la parole. Et quant à lui, il les séparait tout bonnement de son univers, ce qui, par parenthèse, nous permet de deviner à quel point elles avaient dû le fasciner. Simplement, il redoutait leur présence. Or, la jeune Claire, sous la menace grandissante d'un mariage dont la seule idée lui faisait horreur, voulait de toutes ses forces demander conseil et ouvrir son cœur à ce frère qui parlait si admirablement du Christ. Avec l'obstination des élus, elle décida qu'elle irait vers lui coûte que coûte, et secrètement. Pas toute seule, toutefois, mais accompagnée d'une parente de tout repos, Madonna Buona di Gualfuccio. De son côté, François, instruit de ses dispositions par Ruffin qui servait d'intermédiaire, accorda un rendez-vous. Un frère à l'âme des plus limpides, Philippe le Long, fut choisi pour assister à l'entretien. Où cela? Dans les bois? L'hypothèse n'est pas à exclure, puisqu'on voulait que la famille ne sût rien. Que de précautions! Sans vouloir rien insinuer, on ne peut empêcher que flottent dans notre mémoire des souvenirs de romans d'amour de ces temps où les dehors de la respectabilité veillent comme des dragons sur les premiers élans permis. Passons hardiment les bornes. Et s'il s'agissait précisément de cela? D'amour. D'amour mystique. Deux âmes volant l'une vers l'autre par-delà les exigences de la chair. Là encore, attention, le terrain est dangereux. Imagine-t-on celui que Dante appelle l'antique adversaire, négligeant une occasion de cette qualité? Un homme devant une femme, saints tous les deux, mais non désincarnés. Il ne faut pas tenter le diable, dit un proverbe. Se rendait-il compte qu'il ne faisait pas autre chose? Claire, assurément non. Mais François? François, dans sa 30e année, devant cette jeune fille d'une beauté exquise, comment pouvait-il ne pas tomber amoureux? Une chute eût été un désastre d'une portée incalculable, parce qu'elle eût atteint les millions d'âmes qui allaient faire leur salut sous leur conduite. Il n'y eut pas même l'ombre d'une faute. Là fut le miracle. Avec François, nous voyons mieux le problème, parce que chez lui, nous sommes pour ainsi dire en pays de connaissance. La grâce travaille en lui visiblement sur de l'humain. Il a désir et passion comme nous. Mais avec la jeune fille qui lui révèle en toute candeur les prodigieux appels de l'amour divin, nous avons le sentiment de nous heurter à de la lumière. Essayons de nous représenter la scène pour mieux comprendre l'attitude de François. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi Philippe le Long pour l'accompagner. Homme grave et réfléchi, Philippe est un observateur attentif à qui rien n'échappe et qui ne se fait pas scrupule de le dire. Sa présence rendra François doublement prudent. Celui-ci se méfierait-il de ce qu'il va dire? Il a beau être saint, il reste impulsif. Et, lui qui ne voulait plus jamais regarder une femme, il va en voir une des plus belles, moralement, sinon physiquement, à ses pieds. Que François se méfie de François. Il va falloir se battre. Claire aussi est émue. Les amoureux n'ont aucune psychologie parce qu'ils ont perdu la tête. Claire est amoureuse du Christ. Peut-être aussi, mais à son insu, de François lui-même, car elle n'est pas en état de faire la distinction nécessaire. Elle est toute à la joie de livrer son âme à cet homme qui lui donne Dieu. Et il est très possible que dans l'excès de son euphorie, elle se laisse tomber à ses genoux et dise comme elle peut son désir de quitter le monde et ses richesses pour suivre le Christ. Longtemps contenue dans le silence de la méditation, les paroles lui jaillissent du cœur. Il l'écoute, et soudain, comme on porte à l'adversaire un coup d'épée, il a cette parole d'une brutalité étrange. « Je ne te crois pas. » A-t-elle bien entendu ? Elle ne bronche pas. François continue. « Si tu veux néanmoins que j'aie foi en tes paroles, tu feras ce que je vais te dire. tu te revêtiras d'un sac et tu iras par toute la ville en mendiant ton pain. » Souffre-t-elle de cette exigence inattendue? Pas le moins du monde. Elle est ravie d'offrir au Christ une preuve de son amour. Il est délicieux d'obéir à cet homme qui lui parle pour le Seigneur. Ce serait plutôt à François de souffrir. Comment a-t-il pu lui ordonner cela? Mais il a eu cette inspiration et peu à peu, le sens lui en apparaît. En enjoignant à Claire de se faire mendiante pour l'amour du Christ, il a donné à Dame Pauvreté un visage vivant de jeune fille. C'est le triomphe de l'amour courtois à son degré le plus haut. Aucun élan suspect n'est désormais à craindre. La demoiselle élue devient l'inaccessible, si ce n'est sur le plan mystique où les âmes se retrouvent comme dans un paradis anticipé. On ne peut rêver d'amour plus pur. Claire se revêt de haillons et va mendier dans les rues d'Assise. À quelqu'un de sa race, il est facile de demander l'impossible. On nous dit qu'elle s'habilla d'un sac et mit sur sa tête un voile blanc, quittant la maison à la dérobée comme pour un rendez-vous. Un rendez-vous avec cet inconnu, la misère. Personne ne s'en douta. Mais qui donc, la voyant ainsi vêtue, aurait pu en croire ses yeux? Personne. Sauf François. Ce fut le commencement d'un des plus magnifiques rêves d'amour que l'humanité ait fait. Le voyait-il ainsi? C'est plus que douteux. Leur amour se perdait dans l'amour du Christ, et les mots n'existent pas pour donner une idée de ces liens mystiques. La chair ne pouvait y jouer aucun rôle. Elle existait cependant, présente, mais cachée dans les profondeurs de l'inconscient sans jamais se manifester. Nous en saisissons quelque chose dans la vision, une des plus étranges que nous ait léguée le Moyen-Âge, que Sainte-Claire eut plus tard au sujet de François. Elle révèle surtout une innocence, pour ainsi dire, abyssale, et cela même par ses stupéfiantes précisions. De toute évidence, elle ne comprenait pas le sens de ce qu'elle disait. Et comment trouver un langage de l'âme qui n'emploie pas d'expression charnelle? On voit très bien le parti que tireraient de ce document nos psychanalystes amateurs d'aujourd'hui. Mais les théologiens qui l'eurent sous les yeux au XIIIe siècle ne s'y trompèrent pas. La pureté du cœur flamboie dans la candeur des aveux. Il est certain que François n'en eut jamais connaissance. Cette croix-là, au moins, lui fut épargnée. Et quant à Claire, on l'eut scandalisée en lui disant que, même dans cet amour surnaturel, la nature ne pouvait être absente, l'âme étant unie au corps. Et comment cet amour s'exprimerait-il autrement que dans les termes de l'amour terrestre, avec l'inévitable vocabulaire de la sensualité? Quand on a sous les yeux le récit de la vision rapporté par les sœurs, ses compagnes à qui elle l'a confiée, comment ne se souviendrait-on pas du plus beau poème d'amour, qui est le Cantique des Cantiques, où toute l'Église a vu l'âme éprise de Dieu? Elle y parle le langage du désir, parce qu'elle n'en a pas d'autre pour traduire l'excès d'une passion indicible.
Amis auditeurs, nous retrouverons Claire d'Assise, Sœur Claire, dans le prochain épisode de cette série d'émissions de Pax et Bonum consacrée à Frère François, d'après l'ouvrage de Julien Green.